Je ramais sur un lac. Cela se passait dans une grotte voûtée où il n'y avait pas de jour. Et pourtant il faisait clair, une lumière pure et uniforme tombait de la pierre au reflet bleu pâle. Bien qu'on ne sentît pas de courant d'air, les vagues montaient, mais pas au point de mettre en danger ma barque, qui, quoique petite, était solide. Je ramais tranquillement en fendant les vagues, mais je pensais à peine à ce que je faisais. Je ne m'occupais que de rassembler mes forces pour absorber le silence qui régnait en ce lieu, un silence tel que je n'en avais jamais trouvé nulle part ailleurs dans ma vie. C'était comme un fruit dont je n'avais jamais mangé, qui était pourtant le plus nourrissant de tous. J'avais fermé les yeux, je buvais le silence. Pas en toute quiétude, à vrai dire. Le silence était encore parfait, mais il y avait constamment une menace de trouble. Le bruit était comme retenu par quelque chose, mais il était devant la porte, crevant d'envie de se déchaîner enfin. Je lui fis les gros yeux, à lui qui n'était pas là. Je détachai un aviron de la tôletière et me mettant debout dans la barque qui oscillait, je fis avec mon aviron un geste de menace dans le vide. Le silence durait encore. Et je continuais à ramer. Étrange coutume judiciaire. Le condamné est égorgé par le bourreau dans sa cellule, la présence d'autres personnes étant interdite. Il est assis à sa table. Il termine sa lettre ou son dernier repas. On frappe, c'est le bourreau. « As-tu fini ?» demande-t-il. Ses questions et les instructions qu'il donne lui sont prescrites selon leur ordre et leur contenu. Il ne peut pas s'en écarter. Le condamné, qui d'abord a bondi de sa place, se rassied, regarde fixement devant lui, à moins qu'il ne cache son visage dans ses mains. Comme le bourreau ne reçoit pas de réponse, il ouvre sa caisse d'instruments posée sur le lit de camp, choisit les poignards, tente d'améliorer, ça et là, leurs multiples tranchants. Il fait déjà très sombre. Il installe une petite lanterne portative et l'allume. Le condamné tourne la tête vers le bourreau à la dérobée, mais quand il remarque ce que celui-ci est en train de faire, il détourne la tête, ne veut plus rien voir. « Je suis prêt !» dit le bourreau au bout d'un moment. « Prêt ?» interroge le condamné dans un cri. Il bondit, se décide maintenant à regarder le bourreau en face. « Tu ne me tueras pas, tu ne m'étendras pas sur le lit de camp pour m'égorger. Tu es un homme, malgré tout. Tu peux exécuter quelqu'un sur un échafaud, avec des aides, en présence des magistrats, mais pas ici, pas dans cette cellule, un homme tuant un autre homme !» Et comme le bourreau penché sur la caisse garde le silence, le condamné ajoute d'un ton plus calme « C'est impossible !» Et comme le bourreau reste muet, même maintenant, le condamné dit encore « C'est justement parce que c'est impossible que cette étrange coutume judiciaire a été instituée. On voulait préserver les formes, mais la peine de mort ne devait plus s'accomplir. Tu vas me conduire dans une autre prison, je resterai sans doute encore longtemps, mais... « Je ne serai pas exécuté !» Le bourreau détache un nouveau poignard, enfermé dans sa gaine droite. Il dit « Tu penses sans doute à ces contes de fées dans lesquels un serviteur reçoit l'ordre d'exposer un enfant et puis il parvient pas à accomplir l'ordre, il préfère mettre l'enfant en apprentissage chez un cordonnier. C'était un conte de fées. Ici, ce n'en est pas un. » J'arrivais hors d'haleine. Un poteau était planté un peu de travers sur le sol, surmonté d'une pancarte portant l'inscription « Trappe ». Je dois être au but, je me dis. Je regarde autour de moi. À quelques pas de là seulement, il y avait une tonnelle discrète, couverte de feuillage, d'où sortait un léger bruit d'assiettes entrechoquées, c'était midi. J'y allais, passer la tête par l'ouverture basse, distinguais à peine quelque chose dans l'obscurité de l'intérieur. Je saluais, demandais « Pouvez-vous me dire qui fait fonctionner la trappe »« Moi-même, pour vous servir, dit une voix aimable, je viens tout de suite. » Et maintenant, je commençais lentement à distinguer le petit groupe. C'était un jeune couple, trois petits enfants, dont le front venait à peine au niveau de la table, et un nourrisson encore dans les bras de sa mère. Le mari, qui était assis au fond, voulut se lever aussitôt et sortir au plus vite. Mais sa femme le pria affectueusement de finir d'abord son repas. Lui, malgré cela, me désigna du doigt. Elle, de son côté, dit « Je serais bien assez aimable pour attendre un peu, et même peut-être leur faire l'honneur de partager leur déjeuner, même ce pauvre déjeuner. » Et moi, finalement, au plus haut point, irrité contre moi-même, parce que j'avais dérangé de si vilaine façon leur repas du dimanche. Je ne puis m'empêcher de dire « Hélas, ma brave femme, hélas, je ne peux pas accepter votre invitation. Je suis obligé de me faire jeter dans la trappe à l'instant même. » « Oh, dit la femme, et juste le dimanche, et au milieu du déjeuner encore. Mais quel caprice ont les gens, mais quel esclavage !»« Ne grondez pas comme ça, je dis. C'est pas par caprice que je demande ce service à votre mari. Si je savais comment on fait, il y a longtemps que je l'aurais fait moi-même. » « Ah, faites pas attention à ma femme, dit l'homme qui était déjà à côté de moi, et il m'entraîna. Et demandez pas de bon sens aux femmes. » J'étais raide et froid. J'étais un pont. Je passais au-dessus d'un abîme. Mon copain. La pointe de mes pieds s'enfonçait d'un côté, de l'autre, mes mains s'engageaient dans la terre. J'étais accroché de toutes mes dents à la terre qui s'effritait. Les pans de mon veston battaient à mes côtés. Au fond du gouffre, on entendait mugir l'eau glacée du torrent, le torrent des truites, et nul touriste pour s'égarer à ces hauteurs impraticables. Nulle carte encore, même, des montagnes ne mentionnait ce pont. J'étais là, j'attendais. J'étais obligé d'attendre. S'il ne s'effondre pas, un pont, une fois qu'il est mis, il ne saurait pas cesser d'être un pont. Un jour, le soir tombait, était-ce le premier, le millième, je ne sais pas. La roue de mes pensées roulait dans le tumulte. Sur le soir, en été, à l'heure où le torrent mugit déjà plus sombrement, j'entendis venir le pas d'un homme. Il approchait, il était là. « Étends-toi, pont, tiens-toi !» Poutre sans garde-fou, ne laisse pas tomber celui qu'on te confie. Compense l'incertitude de son pas. S'il chancelle, fais-toi reconnaître. Et comme le dieu de la montagne, lance-le sur le sol. Il vint, il me tâta de sa canne ferrée. Il releva les pans de ma veste avec la pointe et les replis sur mon dos. Il promena sa canne aiguë dans ma tignasse et l'y laissa un moment tandis qu'il regardait probablement d'un air farouche autour de lui. Et mon rêve suivait le sien au-delà des monts, des plaines. Quand il me sauta soudain, à pieds joints sur les reins. Je frémis, une douleur atroce, et moi je m'étais douté de rien. Qui c'était? Un enfant? Un rêve? Un brigand? Un désespéré? Un tentateur? Un exterminateur? Je me retournais pour le voir. Un pont qui se retourne? J'avais pas fini que je tombais, déjà. Je m'effondrais, fracassé, empalé par les cailloux aigus, qui m'avaient toujours regardé jusque-là si paisiblement du fond des eaux déchaînées. C'était un vautour. Il me donnait des grands coups de bec dans mes pieds. Et il avait déjà déchiré mes bottes et mes chaussettes, maintenant il attaquait directement les pieds. Et il frappait, il volait plusieurs fois autour de moi, après quoi il reprenait son travail. Un monsieur vient à passer, regarde un moment et me demande « Pourquoi je me laisse faire ainsi par le vautour ?»« Je suis sans défense, » dis-je. Il est venu et s'est mis à me frapper à coups de bec. J'ai voulu le chasser naturellement, même j'ai essayé de l'étrangler. Mais une bête pareille, ça a trop de force. Il allait me sauter à la figure, alors j'ai préféré lui donner mes pieds. Voilà maintenant, regardez, il les a presque déchiquetés. Vous vous laissez martyriser, dit le monsieur. Il faut que je passe chez moi prendre mon fusil. Vous pouvez attendre encore une demi-heure. Je sais pas, dis-je, je restais un instant paralysé par la douleur. Puis je dis, je vous en prie, essayez en tout cas. « Bien, dit le monsieur, je vais me dépêcher. » Le vautour avait écouté tranquillement notre conversation et promenait ses regards entre le monsieur et moi. Je vis qu'il avait tout compris. Il s'envola, se pencha loin en arrière pour prendre un élan suffisant, puis semblable à un lanceur de javelot, m'enfonça son bec dans la bouche jusqu'au plus profond de moi-même. En tombant en arrière, je sentis avec soulagement qu'il se noyait sans espoir de salut dans mon sang, qui avait débordé de ses rives, emplissait toutes mes entrailles.
un dernier tout petit. C'était de très bonne heure le matin. Les rues étaient propres et vides. Je m'en allais à la gare. En comparant une pendule avec ma montre, je vis qu'il était déjà beaucoup plus tard que je n'avais cru. Il fallait me dépêcher. L'effroi que me causa cette découverte me fit hésiter sur mon chemin. Je ne m'y reconnaissais pas encore bien dans cette ville. Heureusement, il y avait un agent de police tout près. Je cours vers lui. Je lui demande hors d'haleine mon chemin. Il se met à sourire et me dit « C'est de moi que tu veux apprendre ton chemin ?»« Oui, je lui dis, puisque je ne peux pas le trouver tout seul. »« Abandonne, abandonne, » dit-il en se détournant de moi d'un geste large, comme font les gens qui ont envie d'aller rire tout seul en toute liberté. Voilà, c'est fantastique.